Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'Écho du développement. Votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables diffusé sur Radio Okapi. Votre magazine s'intéresse aujourd'hui à la problématique de la protection des droits des peuples autochtones en RDC. Cette émission vous est présentée par Tati Mapuku. Jean-Marc Matouaki s'occupe de la coordination de la supervision de ces numéros et la prise de soins est assurée par Polydor Basunga. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute des codes du développement.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. En RDC, les ONG et autres acteurs de la société civile œuvrant dans les secteurs de la protection des droits des peuples autochtones sont montés au créneau pour dénoncer le silence des autorités dans les massacres qui a coûté la vie à 46 pygmées dans les villages Massini en Ituri le 14 janvier dernier. Cette énième tuerie des pygmées soulève en même temps les débats sur la problématique de la protection des droits des peuples autochtones en RDC. Que faut-il faire pour garantir les droits des peuples autochtones en RDC? Quelles seraient les raisons à la base de l'attaque ciblée des pygmées en Ituri? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter à cette minorité nationale de vivre en paix dans leur milieu naturel? Tentative de réponse au cours de ce numéro des Codes du développement. Nous entamons ce magazine avec le témoignage de Monsieur Bola, un peuple autochtone du territoire de Bikoro dans la province de l'Équateur qui soutient que ce peuple qui constitue une minorité nationale en RDC n'est pas du tout protégé par l'État congolais. Et pourtant, ils sont les gardiens de la forêt, des parcs et des aires protégées. Ils regrettent que ces peuples pacifiques soient l'objet de l'attaque ciblée ayant causé la mort des 46 pygmées à Massini, village situé dans la chefferie de Walese, Vutuku, en Ituri.
Kombo nangai, Monsieur Bola.
Je m'appelle Bola. Je suis un peuple autochtone ressortissant de Bikoro, dans les secteurs Ekonda, dans la province de l'Équateur. Pour les cas de meurtre des pygmées qui a eu lieu en Ituri, mon avis est celui-ci. Nous, le peuple autochtone, lorsque les gens disent qu'en cas de meurtre des Bantous, nous ne réagissons pas, mais nous haussons les tons aujourd'hui parce que le peuple autochtone fait partie d'une minorité nationale et il est les gardiens de la forêt. Nous protégeons des parcs et des aires protégées. Nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne détenons pas des armes. Nous sommes un peuple solidaire et hospitalier. Je suis en train de pleurer mes frères et sœurs décédés en Ituri. Je demande au gouvernement congolais de nous protéger. Lorsque des Bantous, des Soudanais et des Nilotiques sont venus s'installer ici chez nous, nous les avons accueillis sans problème. Nous cohabitons pacifiquement depuis des siècles avec des différents peuples. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas?
L'équipe des Codes du développement remercie M. Bola pour son témoignage. Quelles sont les régions de la RDC où les peuples autochtones sont souvent victimes d'attaques causant parfois des pertes en vies humaines? D'après M. Kedi Bosulu Moula, coordonnateur national du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en RDC et Palais Fonsigle, c'est dans la province du Tanganyika que ce genre de meurtre a commencé. Des cas d'attaque des peuples autochtones sont aussi documentés régulièrement à l'Équateur, dans le Nord et le Sud Kivu et récemment en Ituri.
Le problème a commencé d'abord au Katanga et puis nous. Nous avons encore les mêmes, voilà, les Tanganyika. Nous avons encore problème à Beni, maintenant au parc national Kahuzi-Biega, Bikoro, au niveau de Mweka aussi. Et vraiment, c'est un problème vraiment générique. Et ce n'est pas bien bon, en tout cas, d'humilier un peuple comme ça. C'est ainsi que cette conférence avait pour but, en tout cas, de dénoncer les actes pour que nous puissions trouver la solution.
Et qu'est-ce que Ripalef demande aux décideurs concernant la protection de ces peuples autochtones qui est victime de tueries intempestives à travers la RDC?
Voilà, c'est-à-dire la première demande est en tout cas l'implication des autorités dans ces dossiers. L'implication des autorités dans ces dossiers, il faudrait que les autorités voient comment diligenter une enquête. Et puis, pendant que nous parlons là, il y a déjà les communautés qui sont dans la forêt par-ci, par-là, à cause de cette situation. Il fallait que les autorités essayent de diligenter les moyens conséquents, les moyens humanitaires, pour en tout cas sauver les gens qui se trouvent maintenant au niveau de la forêt, au niveau de la zone sinistrée, et pour que l'État puisse en tout cas s'assurer que ces gens-là sont d'abord en sécurité, et puis il n'y a pas quelqu'un qui viendra pour commencer les tueries. Et parce que parmi ces populations, il y a encore des témoins, et il y a un peu d'autres gens qui se sont échappés au problème là. Maintenant, il faudrait que nous puissions avoir la sécurité de l'État par rapport à ça.
Adopter une loi sur la protection des droits des peuples autochtones pygmées, c'est protéger leurs terres ancestrales et les ressources naturelles de la RDC. Est-ce que vous pensez que c'est... Une fois que la loi sera adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, cela aiderait la communauté pygmée à bien protéger la forêt?
Absolument. Parce que le vrai problème des peuples autochtones, c'est quoi? Les gens parlent de leurs droits, mais il n'y a pas une documentation qui atteste véritablement que les peuples autochtones, c'est ça leurs droits. Et je crois qu'au niveau de la RDC, avoir une telle loi, ça serait vraiment la plus valide pour, en tout cas, lorsqu'il y a ce genre d'atrocité, que nous puissions régler les problèmes à partir des documents existants.
Nous devons noter que la RDC a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques en matière de protection des droits de l'homme. La constitution de la RDC, à son article 215, stipule que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, de leur ratification, une autorité supérieure aux lois nationales. Cependant, le gouvernement congolais tarde à respecter ses obligations juridiques internationales concernant les droits des peuples autochtones. Pour l'instant, aucun mécanisme juridique garantit les droits des peuples autochtones. Cette communauté, faisant partie des minorités nationales, mérite une protection intégrale, soutient Ginka Jemba, coordonnateur national du groupe de travail Climat RED Rénové.
Nous, comme société civile nationale, nous revenons sur la problématique de la protection des sociétés ou des groupes humains qui protègent l'environnement et qui contribuent à l'équilibre climatique mondial. Et la plus grande communauté ou le grand groupe des hommes qui contribuent à ce combat-là, ce sont les communautés, les peuples autochtones. Et donc continuer à les massacrer a une préjudice importante sur les forêts. Parce que les forêts, comme vous le savez, au niveau international, ce sont les forêts les mieux appréciées, étant donné qu'ils séquestrent suffisamment de carbone. Et ça, ce sont les efforts consentis historiquement par les groupes de peuples autochtones partout où ils sont dans les forêts.
Alors, qu'est-ce que vous demandez aux décideurs concernant la protection de ces peuples qui est menacé?
Nous allons nous battre et continuer à nous battre pour qu'ils soient le plus protégés, le plus sécurisés que dans leur écosystème naturel. Il n'est pas assez question de les sécuriser pour qu'ils puissent se déplacer, parce qu'en se déplaçant, ils fuient les forêts et ils ne peuvent pas survivre ailleurs en dehors des forêts. Et donc, leur vue là-bas n'a jamais impacté sur les forêts. C'est plutôt une vue qui a contribué à la conservation, à la promotion, à la protection des forêts. Et que donc, dans leur écosystème naturel, nous souhaitons, nous battrons pour qu'ils puissent y rester. C'est sûr que quand on les tue, c'est pour les dissuader de partir et de quitter les forêts, parce que c'est un problème foncier. Mais nous allons tous nous battre et c'est important que nous battions pour qu'ils puissent rester dans leur forêt, qu'ils puissent vivre paisiblement dans la forêt. Et nous, ça, c'est notre combat que nous n'allons pas lâcher aujourd'hui. Nous, on va parler des trois grandes dimensions, la promotion, la protection et l'accompagnement. Et dans tous ces trois éléments-là, la protection est liée à tout. Il y a d'abord l'autoprotection, c'est-à-dire que là, il y a toute la communauté qui doit s'organiser, qui doit avoir des relais au niveau de la société civile pour donner l'information à temps et à contre-temps. Vous voyez, nous avons un pays vaste, nous avons beaucoup de faiblesses liées aux structures de sécurité, et que donc il y a un travail que la société civile doit faire pour alerter chaque fois qu'il y a des questions comme ça, de manière à ce que la protection soit d'abord au niveau de communauté, après à notre niveau, pour que nous puissions prévenir tout ce genre de débordements.
Pour sa part, Kapupudiwa Mutimana, président du Réseau national des peuples autochtones de la RDC, s'interroge sur les mobiles ayant conduit à cette attaque ciblée dans un village des Pygmées en pleine journée du 14 janvier 2021.
Nous avons dénoncé les massacres perpétrés par les groupes armés non encore identifiés. C'était pour essayer d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre des peuples autochtones, là où on a exterminé tout un village. Et c'est là, moi personnellement, je considère ça comme un pygmocide, c'est-à-dire un génocide fait aux pygmées. Parce que ce n'est pas seulement le pygmée, on a visé seulement les pygmées. Parce qu'aux alentours, il y avait même d'autres villages de Bantous, donc des communautés locales. Et là, nous nous sommes dit pourquoi on a ciblé seulement le village pygmée. Donc, par définition de génocide, donc il y a préméditation, il y a des préparations, il y a les objectifs pour exterminer un groupe d'individus, un groupe d'un peuple. Et c'est là que nous avons dit comment, pourquoi on a ciblé seulement les peuples autochtones. Raison pour laquelle nous avons dit qu'on ne peut pas se taire. Et de deux, si vous avez suivi notre déclaration, nous avons invité d'observer un deuil national de 3 jours. Parce que l'État congolais, le fait de tuer les peuples autochtones, il n'y a pas ni son décroche, que ce soit l'État, donc le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement national, vraiment il n'y a rien. Que même dans le droit de zone nationale, la RTNC et d'autres stations radio nationales congolaises, personne qui en parle. C'est pour cela que nous avons invité la presse, le média, pour qu'à travers eux, que notre voix puisse être entendue. C'est ainsi que nous avons dit, on a décrété 3 jours de deuil, comme tout Congolais. Dans notre vie, dans notre tradition, dans notre culture, nous les Congolais et les Africains, quand il y a des morts, on observe le deuil. Pourquoi nous les peuples...
On ne va pas dans les champs.
Et donc on ne va pas dans les champs, on reste au village jusqu'à ce qu'on fera le levé de deuil, nous aussi, étant d'abord comme gardien de la culture. On ne devrait pas passer comme ça sous silence. Étant africain, étant que peuple autochtone, dans le cas de préservation et dans le cas de la valorisation de notre culture, nous avons décrété ce deuil national. Le fait que notre État n'a pas fait cela, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial.
Radio Okapi vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Vous êtes en train de suivre Éco du développement diffusé sur Radio Okapi, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables, qui s'intéresse aujourd'hui à la problématique de la protection des droits des peuples autochtones en RDC. Selon Patrick Saïdi, coordonnateur national de la dynamique des peuples autochtones, DGPA en sigle, les modes opératoires des assaillants qui ont tué 46 pygmées dans les villages Massini en Ituri le 14 janvier dernier démontrent à suffisance que cette opération viserait l'épuration ethnique des pygmées dans cette partie du pays.
Quand on parle de l'épuration ethnique, pour ne pas parler des génocides, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de critères. Le premier critère, on parle du ciblage d'un groupe bien défini. Donc là, on parle de peuples autochtones pygmées dans un village ou campement non mixte où il n'y a que le peuple autochtone pygmée. On parle aussi de la rapidité de l'action. Donc dans une heure, 10 ans, 46 personnes perdent la vie par décapitation, effectivement. Mais aussi, on parle de la stratégie dans ces tueries-là. Qui sont les personnes qui ont été ciblées spécifiquement? On parle des femmes, on parle des enfants. Et quand on définit les mots génocide, au-delà de l'extermination, au-delà de la violence de l'action, l'autre objectif, c'est empêcher à un peuple de se reproduire. Donc on a touché à des éléments clés. Un, la femme en termes de la reproduction et à l'enfant en termes de la génération future à devenir. Et notre élément principal, c'est l'heure de l'attaque. 9h pile. On sait qu'à 9h pile, les hommes pygmées ne sont pas au village parce qu'ils quittent le village à 5h pour des activités forestières. Pour revenir vers 11h. L'attaque se passe à 9h, de 9h à 10h. L'état que les hommes pygmées reviennent, il est déjà trop tard. Donc, ces deux éléments bien réunis, ça veut dire que les personnes qui ont attaqué effectivement ce campement, ce village pygmée, avaient déjà toutes ces informations au départ. Donc, un acte planifié, un acte réfléchi, il y a vraiment pendant longtemps, comme l'a dit Pasteur. Certes, il y a plusieurs informations qui reviennent, on parle déjà des FNAM. Il y a déjà le gouvernement provincial qui avance les ADFNAM. On ne veut pas aller en contradiction avec le gouvernement provincial tant qu'il n'y a pas encore une enquête indépendante. Mais ce qui est sûr, nous tous ici réunis, nous connaissons les modes opératoires des ADFNAM. Nous connaissons les motivations politiques des ADFNAM. Les motivations n'ont jamais été territoriales. Mais quand on voit la façon dont les actes ont été menés, c'est dans une vision non seulement de faire peur, non seulement d'empêcher un groupe ethnique de se reproduire, mais aussi dans une vision de l'occupation de l'espace. Parce que ces endroits actuellement ont été vidés. Revenons sur le mode opératoire des ADFNALU, ils n'utilisent pas les armes. Mais dans cette attaque précise, il y a eu des armes qui ont été utilisées. Et quand nous revenons sur le quelques rescapés, qu'on ne va pas citer les noms pour des questions sécuritaires, il te dit qu'il y a une complicité. Parce que les quelques personnes qui étaient devant, nous les connaissons. Parce que nous cohabitons. Parce que nous travaillons chez eux. Mais derrière ces personnes, il y avait d'autres avec des machettes pour faire allusion aux Aïdef Nalou. Un flou artistique bien organisé. C'est pourquoi le fait tout simplement que ce soit le gouvernement provincial ou national de vouloir attribuer cet acte ignoble, inhumain, aux ADF Nalu, c'est une façon de nous dire il y en a déjà beaucoup qui ont été tués avec les ADF Nalu. Pourquoi pour vous, les Pygmées, on doit agir autrement? Or qu'en réalité, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas ADF Nalu. C'est pourquoi nous parlons des groupes non autrement identifiés, parce que les informations qu'on a font que l'Ituri subit beaucoup de vagues de migration par différents groupes qu'on ne va pas citer, à la quête des terres arables. Et nous savons que l'Ituri n'a jamais été le champ par excellence d'opération des ADF Nalu. Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est l'établissement de la vérité, c'est nous permettre à croire qu'on n'est pas en train de partir petit à petit dans un schéma d'extermination déjà d'un groupe marginalisé, d'un groupe minoritaire par rapport à d'autres groupes dans les zones où ils vivent.
Le peuple autochtone est par essence un artisan de la paix, ajoute Kapupudi Wamutimana. Nous rappelons qu'il est le président du réseau national des peuples autochtones de la RDC.
Si vous voyez l'histoire de la RDC, je pense que s'il y a 480 groupes armés, aucun groupe armé qui est dirigé par un autochtone, aucun groupe armé qui est financé, qui est commandité par un autochtone, jamais. Et tout cela, ça montre que nous sommes fiers, nous ne pouvons pas détruire nous-mêmes notre supermarché. Parce que personne qui peut construire son supermarché et prendre le feu, mettre aussi. Nous aussi, c'est la même chose. On a pitié du Congo quand on commence à voir le sang qui coule à notre beau pays comme la RDC. Et ça nous fait mal tant que le premier citoyen, comme on vous l'a enseigné. C'est comme la Bible avait dit, entre deux femmes, quelqu'un qui n'avait pas son enfant, alors il a pris l'enfant de l'autre. Mais quand on a voulu couper la tête, le vrai maman de l'enfant a accepté, est-ce que tu peux aller avec cet enfant à condition qu'il vit. Nous aussi, c'est la même chose avec la RDC. Donc, nous avons cet attachement, nous avons ces cordons, comme je viens de le dire. Sans nous, il n'y a pas la nature. Sans la nature, nous n'existons pas.
La culture et les modes de vie des peuples autochtones sont sérieusement menacés en RDC. Ils sont aujourd'hui exposés à une précarité croissante, renchérie. Kapupudi Wamutimana, nous rappelons qu'il est le président du réseau national des peuples autochtones de la RDC.
Si je me souviens, dans le livre d'histoire, on disait pygmée, peuple de la forêt. Mais aujourd'hui, on ne donne plus ces privilèges tant que les dépositaires, moi je ne dis pas les propriétaires, mais les dépositaires de la terre d'abord congolaise, et en particulier et de la terre de la sous-région qu'on appelle les bassins du Congo en général. Et nous étions là comme les protecteurs, comme les gardiens. Et donc, nous, avec la forêt, nous savons, c'est un cordon ombilical. Donc, si on touche les peuples autochtones, ça fait partie même de notre extermination. Parce que ces gens-là veulent occuper ces terres, veulent occuper ces forêts, pour qu'ils commencent à couper comme ils veulent, parce que pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Mais nous, étant que notre supermarché, ils trouvent que si nous les gardons là-bas, on doit continuer toujours à les garder, à les sauvegarder. Et c'est ainsi qu'ils ont jugé utile de nous décapiter, de nous massacrer, de nous faire ce qu'ils ont fait. Et ça fait partie de leur mission. Pour qu'ils occupent ces forêts, qu'ils coupent avec des contrats léonés qu'on est en train de donner par-ci, par-là sur les concessions forestières. Est-ce que ce n'est pas parmi aussi les causes? Parce que ce n'était pas dans la ville. C'était en pleine forêt, là où il n'y a pas même la route. Il n'y a que des pistes. Et voilà, c'est ça que nous disons. Le fait de toucher cela, pour eux, entre guillemets, quand on ferait une descente sur le terrain, on va essayer de chercher les causes, c'était quoi. Parce que souvent ici, chez nous, on traite des choses comme nous le venons de le faire. On traite quelque chose par les faits.
Pas en profondeur.
Oui. Nous, on n'attaque pas les causes chez nous, en RDC. On attaque les faits, sans toutefois savoir ça vient d'où. Mais on commence à soigner l'abcès. Est-ce que c'est un cancer? Mais vous soignez tout simplement, et quand ça va durer, et si vous dites non, il faut quand même chercher quelle est la cause de cette plaie. Nous aussi, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est pourquoi nous disons, c'était avec cet événement, quelquefois je dis le malheur est bon, Mais si nous sommes dans un état de droit comme on est en train de le réclamer, parce que bon, nous ne pouvons pas dire que nous sommes exclus de cet état, malgré nous sommes observateurs. Le fait est que on ne touche pas.
Vous n'êtes pas partie prenante.
Non, on n'est pas acteur. On est observateur. Parce que pourquoi je dis on est observateur? On a fait les consultations ici. On ne nous a pas impliqués. Alors, c'est-à-dire que nous regardons ce qui se passe. Et c'est ça que, pour nous, la loi là, qui se trouve au Parlement, ça, c'est une façon de résoudre de tels problèmes. Parce qu'avec la loi, ça nous sécurise, ça nous garantit, ça nous protège même les titres de la loi. Promotion de la protection des peuples autochtones, les droits des peuples autochtones. Vous voyez déjà, ça couvre tout ça, c'est que, c'est, si la loi était déjà promulguée. Donc, on devrait arriver jusqu'à la source, en suivant ces messieurs-là, étant qu'un état de droit.
Les Pygmées constituent une minorité nationale sous-représentée dans toutes les instances de la prise des décisions en RDC. Pour mieux défendre leurs droits, M. Mpia, président national du Centre international des Batchois, soutient que cela est tributaire à l'occupation des postes de responsabilité dans les instances décisionnelles du pays, conclut cet activiste de promotion des droits des peuples autochtones.
Depuis la table ronde de Bruxelles, en 1959, il y a eu table ronde à Bruxelles, aucun pygmée. Et quand on dénonce ça, on fait la politique. Jusqu'au dialogue national inclusif qui était à la cité de l'OIA, Papa Kapoupouéla, on nous avait chassés avec lui. Et le premier président à inviter les pygmées avec une invitation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Les cas d'espèce, je suis à Bikoro. Quelqu'un dit, au moment où j'étais conseiller en matière de sécurité avec le gouverneur Makila, quelqu'un dit à un pygmée de chez moi, même si je vais te tuer, qui peut te défendre? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous défendre? Et quand ils sont venus à Mbandaka, le monsieur est allé voir un général. Et le pygmée est venu, le général lui a dit, mais ici nous avons Pia qui défend le pygmée. C'est pour vous illustrer que si nous avons quelqu'un au sein du gouvernement, il va valablement défendre les pygmées. Pour revenir au cas de Irumu, nous avons reçu, parce que au niveau de Ituri, la mission évangélique auprès des pygmées d'Afrique a 16 églises. Et ma structure, le CIDB, c'est celle qui a envoyé toutes les données ici, qui nous réunissent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On commençait à tuer les pygmées, on vient dans votre maison, on vous récupère, on vous tue en forêt, ainsi de suite. C'est depuis le 17 juillet 2019. Maintenant que nous avons constaté, il n'y a pas quelqu'un au niveau politique qui est en train de défendre la cause du pygmée. Nous disons maintenant qu'on est en train de parler de l'union sacrée nationale et surtout que nous avions contribué, pour votre information, parmi les recommandations que le chef de l'État a formulées, il y a trois recommandations des pygmées. Si le chef de l'État a dit que dans ce pays, il n'y aura pas de délaissés pour compte, c'est les Français d'Impia. Si le chef de l'État a dit dans un pays, nous n'allons plus travailler avec la discrimination, c'est pire. Si le chef de l'État a dit, nous devons avoir une école de guerre, ce sont mes recommandations. Du fait que nous avons contribué, mais nous sommes en mesure de mettre ça en application. On peut le mettre en application où? Si on se retrouve au gouvernement, pourquoi vous ne voulez pas que les pygmées puissent participer? Et parce que nous avons des innovations à vous donner. Après avoir observé 60 ans d'indépendance, les pygmées ne participaient pas. Nous avons des leçons à donner sur le plan social.
C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré à la problématique de la protection des droits des peuples autochtones en RDC que vous a présenté Tati Mapoukou. Polydor Basunga était à la prise des sons sous la coordination et la supervision de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro des Codes du Développement le jeudi prochain. En attendant, portez-vous bien et merci de continuer à suivre nos programmes.